Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Au micro, Christine Afota. Je vous présente habituellement avec Elisabeth Couget l'émission Capitale, à la découverte de villes du monde entier, ainsi que Personnages insolites, où nous racontons des destins hors normes, inattendus, des vies extraordinaires. Aujourd'hui, je voudrais évoquer un sujet dont vous avez sûrement entendu parler, et de plus en plus, mais qui reste sans doute assez flou pour beaucoup d'entre nous. Je veux parler de la méditation. Qu'est-ce que c'est exactement que la méditation? Quels bénéfices peut-on en tirer? Comment la pratiquer? À mes côtés, une jeune femme que j'accueille, Virginie Gaudel. Bonjour Virginie.
Bonjour Christine, je vous remercie de votre invitation.
Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi et pour nos auditeurs, j'en suis sûre. Donc Virginie pratique la méditation depuis de nombreuses années et Virginie va nous éclairer, nous donner toutes sortes d'informations là-dessus.
Eh bien, c'est avec un grand plaisir, Christine, pour moi de partager ma pratique de la méditation avec vos auditeurs.
Très bien, merci beaucoup Virginie. Donc vous avez, je le pense et je le sais aussi, une vie de famille bien remplie, des enfants, un métier dans la haute finance qui exige beaucoup de sang-froid et de combativité.
C'est vrai Christine, je travaille dans la finance. Et vos auditeurs sont peut-être un peu étonnés d'entendre une banquière parler de méditation.
C'est vrai.
On aurait plutôt tendance à opposer le monde des requins de Wall Street et celui des moines méditateurs, n'est-ce pas?
C'est une grosse erreur, je crois.
Oui, c'est vrai, parce que beaucoup de financiers pratiquent la méditation. Je peux vous donner l'exemple de Ray Dalio,
oui,
qui est le célèbre fondateur du plus grand fonds d'investissement au monde, qui s'appelle Bridgewater.
Oui.
Eh bien, il pratique un genre de méditation qui s'appelle la méditation transcendantale. Et dans son dernier livre, il écrit que cette pratique lui a permis de cultiver son ouverture d'esprit, son sang-froid, sa capacité de prendre du recul et sa créativité.
Eh bien, voilà déjà un certain nombre de raisons qui vont permettre de nous intéresser à cette méditation, justement. Ça va beaucoup plus loin que ce que l'on pense a priori.
Oui, et d'ailleurs, c'est certainement des compétences utiles à toutes et certainement utiles pour un investisseur qui gère plus de 160 milliards de dollars.
D'autant plus.
Voilà. Mais bon, la finance, mais aussi le monde de la technologie, par exemple, la méditation, oui, est une pratique à la mode dans la Silicon Valley.
Aux États-Unis, donc.
Voilà, c'est ça, San Francisco.
Oui.
Et un des ingénieurs en chef de la célèbre compagnie Google.
Ah, Google, qui n'a pas entendu parler de Google. Lui aussi pratique la méditation.
Et oui, non seulement il la pratique, mais il a créé un cours de méditation en intention des employés de Google. Donc la méditation est utile à tous, sans barrière de croyance, âge, profession. Et bien, parlons-en
en plus de détails. Merci beaucoup Virginie. Alors d'abord une question, vous méditez tous les jours et pendant combien de temps?
Je médite tous les matins 20 minutes au réveil.
Et pourquoi le matin?
Écoutez, de nombreuses traditions spirituelles ou religieuses conseillent la méditation ou la prière le matin, parfois au lever du soleil.
Oui.
Dans la religion chrétienne,
bien
nous
sûr
avons les lourdes.
Oui, oui.
Je pense que tôt le matin, notre esprit et notre corps sont reposés, la maison est encore calme. Commencer par une méditation matinale permet de se préparer mentalement pour affronter la journée. Et c'est ma routine personnelle. Alors d'autres préfèrent méditer le midi, sans doute pour se ressourcer et réentamer l'après-midi. Certains réservent leur pratique méditative pour le soir. Ils souhaitent ainsi se relaxer, réfléchir sur la journée passée et se préparer au sommeil. Donc, il y a vraiment une multitude de pratiques possibles.
Voilà, donc à plusieurs moments de la journée, mais plutôt peut-être le matin, c'est exact. Ou
c'est
le soir pour s'aider à s'endormir.
Et deux fois dans la journée, c'est encore
mieux. Et encore mieux, certainement, oui, oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement que la méditation?
Alors, c'est difficile à définir, mais je vais essayer de le faire. Pour moi, la méditation est une pratique mentale qui consiste,
oui,
soit à se concentrer sur un objet, quel qu'il soit.
Donc une fleur, une lumière, une bougie,
chandelle, voilà. Sa respiration,
ah oui,
exemple,
tout simplement.
C'est assez,
oui,
assez commun. Alors ça, c'est la première définition de la méditation. La deuxième, c'est à rester plus attentif, le plus attentif possible à son environnement extérieur ou intérieur. Les non-croyants définissent parfois la méditation comme la gymnastique du cerveau. Les croyants lui donnent une dimension plus spirituelle. C'est un moyen d'explorer sa vie intérieure, voire de cultiver le silence et idéalement se rapprocher de Dieu.
Donc bien sûr, la méditation intéresse tout le monde, croyant ou non croyant.
Oui, absolument.
Oui. Et il y a plusieurs types de méditation, Virginie ?
Voilà, il y a de nombreuses techniques de méditation. Et j'aurais tendance à les classer en deux familles. La première famille, c'est les techniques de concentration sur un objet.
Donc vous avez parlé, avant.
Oui, exactement. Donc, ces techniques visent à stabiliser son activité mentale, à vraiment se concentrer. Et le point d'attention peut être multiple. Ça peut être un objet réel. Vous parliez de la flamme d'une chandelle juste avant. Ça peut être ce qu'on appelle un mantra.
C'est-à-dire
Alors, c'est un mot ou une phrase que l'on répète mentalement. Ça peut avoir une signification, avoir deux significations.
À la limite, un peu comme une prière aussi, non ?
Exactement.
Oui.
Ça peut être aussi une partie du corps ou sa respiration, voire une émotion, voire une pensée positive, idéalement.
D'accord.
Donc, par exemple, nous avions évoqué Ray Dalio en début d'émission. Lui pratique ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Et celle-ci consiste à répéter mentalement un mantra individuel. La récitation de ce mot, de ce mantra, aide l'esprit à rester concentré et à ignorer les distractions. Si l'esprit s'égare, parce qu'on commence à faire la liste des choses à faire dans la journée...
Ça doit être vraiment facile de s'égarer, je pense.
Oui.
On peut tout le temps ramener l'esprit.
Voilà.
Voilà, au sujet de la concentration.
Ce n'est pas grave, la technique,
non.
C'est de s'en apercevoir déjà.
Oui.
Et d'arrêter la dérive et de revenir à la récitation du mantra.
Calmement, de faire revenir son esprit sur l'objet ou la situation ou la respiration.
Exactement.
Très bien.
Mais je pense que finalement, ces pratiques sont assez faciles à expliquer. Mais ce qu'il faut, c'est les pratiquer. Et pourquoi ne pas vous proposer à vous, Christine, et à vos auditeurs un petit challenge ?
D'accord, alors de quoi s'agit-il ?
Eh bien, nous allons faire un petit exercice qui va prendre quelques minutes.
Alors donc, à tous nos auditeurs, écoutez bien, vous allez faire un petit exercice de méditation avec notre invitée Virginie.
Et vous aussi, Christine, hein, concentrez-vous.
Très bien, je me concentre.
C'est un exercice de concentration. Alors, écoutez bien les instructions. Vous allez fermer vos yeux, on peut le faire dès maintenant. Prendre deux grandes respirations profondes. Allons-y. La deuxième. Je pense que déjà vous vous sentez mieux. Calme.
Absolument.
Relaxé.
Oui.
Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre respiration et compter chacune de vos expirations. Donc, par exemple, 1, 2.
D'accord.
Votre objectif, c'est d'arriver jusqu'à 10.
En pensant à sa respiration tout le temps.
Voilà.
C'est bien ça.
Si vous vous égarez.
Oui.
Si
l'esprit va de ci de là.
Oui. Revenez à 0.
D'accord.
Le but, c'est d'essayer d'aller jusqu'à 10 et voyons combien de temps ça va nous prendre.
Alors, je vous propose sur un fond musical, donc, ce petit exercice tout simple. Vous vous attachez donc à compter vos respirations jusqu'à 10 en gardant l'esprit bien, bien concentré sur cette respiration. Thank you.
quelle est votre observation? Est-ce que vous avez atteint les dix respirations en les comptant bien du premier coup?
Alors, à vrai dire, oui, parce que j'étais tellement attentive, en pensant aussi aux auditeurs et à vous-même, que du coup, je me suis vraiment concentrée. Mais je crois que dans des conditions plus habituelles, j'aurais eu du mal. Peut-être au bout de 3 respirations, mon esprit aurait commencé à vagabonder sur toutes sortes de choses. Voilà. Bon, j'espère que nos auditeurs auront réussi ce petit exercice de méditation et que vous vous sentez déjà peut-être plus calme, plus reposé.
En tout cas, c'est mon cas. Ah, bah c'est très bien. Eh bien, continuons alors. Donc, nous essayons avec ce petit exercice.
C'est ça. Donc, première technique, se concentrer sur un objet.
Voilà.
Un mot ou une phrase, éventuellement.
Voilà.
Ou sa respiration, tout simplement comme ce que nous venons de faire. Mm-hmm. Et puis, alors, il y a une deuxième technique de méditation.
Voilà. Alors, la deuxième grande famille de méditation s'organise autour de techniques d'attention plutôt que de concentration.
D'accord. Et concentration et attention, ce n'est pas la même chose à peu près?
La distinction que je souhaite exprimer là, c'est qu'au lieu de se concentrer sur un objet précis, on cherche à développer ses sens, à percevoir la réalité telle qu'elle est dans le moment présent, plutôt qu'à travers l'écran de nos pensées ou de nos croyances.
D'accord.
Vous vous rappelez au début, lorsque j'évoquais la première famille de méditation, on a parlé de la méditation transcendantale qui se concentre sur un mantra ou la récitation du même mot. Eh bien, dans ces familles de méditation, la deuxième famille qui est autour de l'attention, la méditation vipassana d'origine bouddhiste.
Comme son nom l'indique.
Voilà, ou la méditation de pleine conscience.
Ah oui, donc, on entend beaucoup parler de ça.
Voilà. Eh bien, ces méditations font partie de ces techniques d'attention.
D'accord. Une question que je me pose, Virginie, prière et méditation, ou prier et méditer, c'est pareil?
Alors, c'est vrai que à la fois la prière et la méditation requièrent toutes deux le recueillement.
Il vaut mieux.
Voilà. Et prier le chapelet catholique est une forme de méditation telle qu'on l'a définie auparavant. Je dirais que la principale distinction est que la prière s'adresse à quelqu'un, à un Dieu, et il y a dans la prière cette recherche d'une relation avec Dieu. Et ce n'est pas forcément le cas de la méditation, en particulier dans les pratiques méditatives de concentration qui peuvent être complètement séculaires. Donc, pour moi, prière et méditation sont très complémentaires. La prière est d'autant plus profonde, je pense, si elle est précédée d'un temps de silence, où l'on se libère des cogitations du cerveau.
Un peu comme les moines dans les monastères, dans le silence.
Voilà. Et donc, la méditation n'a pas vocation à se substituer à la prière, mais peut-être de la rendre plus profonde et plus féconde. Et l'on peut commencer sa pratique par la méditation pour ensuite conduire à la prière.
C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Virginie. Et quels sont les effets positifs, d'une façon générale, de la méditation?
Alors, il y a maintenant un important corpus de recherches scientifiques sur les bienfaits de la méditation. Par exemple, 4 études conduites par de prestigieuses facultés américaines, assez récentes, en 2005, 2007, 2011 et 2015, ont montré que la pratique de la méditation permettait de ralentir le vieillissement du cerveau. En particulier, une étude menée par l'université américaine UCLA comparait 100 méditateurs chevronnés à une population qui ne pratiquait pas la méditation. Eh bien, le résultat, tenez-vous bien, les méditateurs avaient plus de matière grise.
Donc, en plus d'être plus calme, plus serein, plus intelligent même, peut-être.
Eh bien, oui. Donc, on a pris cet exemple. Maintenant, plus généralement, la recherche a prouvé à la fois des bénéfices physiologiques et psychologiques.
Donc, alors, dans le cadre des bénéfices physiologique, donc, on trouve, Virginie?
Alors, on trouve une diminution de la tension artérielle chez des sujets hypertendus, par exemple, une meilleure synchronisation des deux hémisphères gauche et droit, qui pourrait être en corrélation avec plus de créativité, une consommation plus efficace d'oxygène par les cellules, et, comme on l'a vu, la stimulation de la matière grise.
Et bien sûr, il y a aussi très important, des bienfaits psychologiques.
Tout à fait, moins de stress ou d'anxiété, plus d'empathie, et une sensibilité perceptive accrue.
Donc il n'y a que des avantages.
Que des avantages.
Aucun inconvénient réellement. Mais une question, faut-il méditer régulièrement, par exemple quotidiennement ou tous les deux jours, ou bien simplement de temps en temps, cela suffit?
Alors, si vous vous rappelez, Christine, au début de l'émission, vous m'avez demandé une définition de la méditation.
Oui.
Et j'ai répondu, avec peut-être un peu de légèreté, certes, que la méditation était la gym de l'esprit. Donc, on pourrait reprendre cette métaphore. Est-ce que vous pensez qu'en faisant un footing une fois par mois, nous allons améliorer notre système cardiovasculaire et muscler nos jambes?
Non, bien sûr, je crois plutôt que nous risquons de nous froisser un muscle.
Oui, voilà. Et je pense que c'est la même chose pour la méditation et franchement, toute n'importe quelle pratique nouvelle. La pratique quotidienne nous aide à développer ces muscles de concentration ou de pleine conscience. Méditer chaque jour, idéalement au même moment de la journée, crée une habitude, rend la pratique plus facile. Et pour moi, par exemple, c'est devenu un réflexe. Je me lève le matin et je médite.
Tous les jours.
Voilà. Et idéalement, alors qu'on prend cette habitude de pratiquer la méditation, cette pratique s'étend à la vie quotidienne. On apprend à garder plus longtemps notre calme intérieur. On s'arrête plus souvent pour prendre du recul, pour observer autour de nous. On devient plus conscient de son entourage, de ses actions, des paroles.
Donc en fait, ça aide énormément dans sa vie avec les autres aussi.
Voilà, et je pense que lorsqu'on reconnaît que l'on s'est amélioré, qu'il y a un effet sur la vie quotidienne, ça nous donne aussi plus de motivation pour pratiquer régulièrement la méditation.
Bien sûr.
Et puis finalement, si on reprend l'analogie avec le sport et le muscle froissé, il faut rappeler que certaines pratiques peuvent déstabiliser en faisant remonter beaucoup d'émotions fortes en même temps.
Ah oui.
Et donc oui, et c'est plus prudent d'avancer progressivement et en se focalisant sur une émotion à la fois plutôt que de
faire trop,
une extraordinaire séance de méditation ou une retraite de 10 jours et rien.
Donc avancer à petits pas, mais tous les jours, régulièrement.
Exactement.
Merci beaucoup. Mais alors, une question quand même, une autre. Est-ce que c'est difficile de méditer?
Ah Christine, je vais vous renvoyer la question
je crois que je sais pourquoi.
Oui, parce que pour préparer cette mission, n'est-ce pas, vous avez entamé une pratique quotidienne
oui,
de la méditation.
J'ai essayé.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez trouvé cette pratique difficile?
Alors, c'est pas toujours évident d'arriver à se concentrer. Je vais vous dire ce qui m'a paru le plus difficile.
Quels sont les obstacles?
D'abord, un problème de distraction. Mm-hmm. C'est vrai qu'au bout d'un moment plus ou moins court, eh bien, on commence à penser à tout à fait autre chose. La liste des courses, ce qu'on doit faire à manger, enfin, n'importe quoi, ce qu'on vient de lire. Donc, on est obligé tout le temps de faire revenir son esprit sur l'objet de la méditation. Ce n'est pas toujours facile. Voilà, on revient. Et puis, évidemment, on peut avoir un appel de téléphone, des enfants qui arrivent soudainement vous demander quelque chose. Ou encore, ça m'est arrivé, un moustique qui bourdonne autour de moi. Bon, ça n'aide pas trop. Mais bon, si tous ces problèmes sont réglés, peut-être que le deuxième problème que j'ai trouvé, c'est qu'on a tendance à s'endormir. Et c'est vrai, au bout de certaines méditations, eh bien, je dormais. Au bout de quelques minutes ou une dizaine de minutes. Et je ne pense pas que quand on médite, on doit dormir. On doit rester quand même alerte et concentré, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, c'est vrai. La méditation n'est pas de la relaxation.
Ah.
Comme vous dites, il faut rester concentré. Mais bien sûr, la méditation apporte aussi de la sérénité, du calme, et c'est assez commun de s'endormir. Donc je vais vous donner quelques conseils pour éviter l'endormissement.
Des remèdes à ces obstacles
voilà.
qui gênent la méditation. Oui.
Alors, évitez de méditer allongé.
Ah, mais oui, bien sûr.
Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position de lotus, les jambes croisées comme
je crois que j'aurais du mal.
Mais enfin, grands yogis. Mais vous pouvez vous asseoir sur une chaise, tout bêtement, et avec le dos bien droit, dans une position alerte.
Ça me paraît une très bonne idée.
Ce sera plus dur de s'endormir. Si vous continuez à vous endormir, eh bien essayez de méditer les yeux ouverts également. Et là, je pense que ce sera d'autant plus difficile.
Il y a aussi peut-être une autre raison, ça n'a pas été mon cas, mais qui, que beaucoup peuvent penser, nous n'avons tout simplement pas le temps de faire de la méditation. Alors, quel est votre conseil, Virginie, là-dessus?
Ah, il faut lui donner la priorité.
Mais,
ah, et c'est pour ça que je conseille de méditer au réveil. Parce que ça
sinon,
devient...
on ne trouvera jamais le temps dans la journée
voilà,
pour le faire.
Voilà, c'est ça. Et là, ça devient une habitude.
Oui.
Et en plus, ça, comme on l'avait dit au départ, ça nous met dans un état d'esprit propice au reste de la journée.
Très bien. Donc, c'est vraiment un conseil à suivre. Merci. Et puis, alors, je pense que pour terminer, ce serait très intéressant, Virginie, de nous conseiller peut-être des ouvrages ou des vidéos ou des CD qui peuvent aider justement à faire nos premiers pas dans la méditation.
Oui, bien sûr. Alors, je conseillerais les livres de Christophe André.
Qui est assez connu.
Voilà, c'est un des premiers en France à introduire l'usage de la méditation en psychothérapie. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Méditer jour après jour », qui est un ouvrage pratique qui a eu beaucoup de succès commercial. Alors, vous avez sans doute entendu aussi parler de Matthieu Ricard.
Un moine bouddhiste français.
Et absolument. Il a écrit, bien entendu, beaucoup d'ouvrages sur la méditation bouddhiste. Et en particulier un livre qui s'intitule « L'art de la méditation ». Alors, j'aime beaucoup aussi le livre « Méditer » de Jon Kabat-Zinn. Dois-je épeler son nom de famille ?
Non, vous trouverez tous ces ouvrages sur notre site internet. Vous pourrez vous référer à tous ces conseils que nous donne Virginie actuellement. Et peut-être pour les enfants, un livre à conseiller en particulier ?
Alors, pour les enfants, je conseillerais le livre d'Eline Snell, S-N-E-L, qui s'intitule « Calme et attentif comme une grenouille ».
Calme et attentif, comme on rêverait que soient nos enfants. Merci. Et donc, peut-être des méditations guidées sur Internet également ?
Alors, il y a beaucoup de choix sur Internet. Je vous inviterai à explorer, par exemple, les chaînes YouTube de Jonathan Lehmann, qui s'intitule « Les anti-sèches du bonheur ».
Tout un programme.
Absolument.
Ce n'est pas les anti-sèches du bac, mais du bonheur, c'est un peu quand même beaucoup mieux.
Il y a aussi la chaîne YouTube de Cédric Michel. Et enfin, on a parlé de Christophe André, qui a aussi une chaîne YouTube où vous pourrez trouver des explications plus approfondies sur la méditation et des méditations guidées.
Merci beaucoup Virginie, et il ne reste plus à nos auditeurs qu'à suivre tous vos conseils, et j'espère avoir une vie plus sereine et plus agréable en pratiquant cette méditation dont vous nous avez parlé. Donc merci encore d'être venu aujourd'hui nous parler de la méditation.
Merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs.
Merci Virginie. Et nous terminons cette émission en vous proposant d'écouter la magnifique méditation de Thaïs de Jules Massenet. Alors, cela fait partie de l'acte 2 d'un opéra de Jules Massenet. C'est une méditation religieuse. C'est Thaïs qui prend un temps de réflexion avant d'envisager d'abandonner sa vie de plaisir pour Dieu. Et après cette méditation, elle va annoncer ensuite à Athanaël qu'elle le suivra dans le désert. La méditation de Thaïs. Et à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel.